une histoire particulière. Juillet 1906, le père Joseph Delarue disparaît subitement du village de Châtenay, dans la Beauce. Sa sœur remue ciel et terre, les gendarmes ouvrent une enquête. Le journal Le Matin promet 1000 francs à celui qui pourrait le retrouver. On fait appel à des mages hindous, une cartomancienne et même une hyène, seul animal capable de découvrir un corps enterré. Tout le monde sillonne la campagne. Mais il semble s'être volatilisé. Meurtre, fugue, fuite. Pendant 40 jours, l'affaire fait la une des journaux et captive la France. Jusqu'à ce que...
Deux mois après sa disparition, alors qu'il est donné pour mort, l'abbé Delarue réapparaît en compagnie de Marie Frémont, l'institutrice du village, enceinte de 6 mois.
C'est un maelstrom médiatique incroyable. Au cœur de cette année 1906, année de séparation des Églises et de l'État, alors les anticléricaux jubilent. C'est la preuve, l'hypocrisie de l'Église, elle est mise à nu. Voilà un prêtre qui s'est enfui parce qu'il avait séduit une jeune femme. Les journaux anticléricaux comme La Lanterne, toutes les semaines, ont une rubrique qui s'appelle « Les monstres en soutane » où sont expliquées toutes les turpitudes auxquelles peuvent se livrer les prêtres. En voilà une. Au moins un prêtre qui n'a pas abandonné sa femme. Ça, quand même, tout le monde le souligne. Donc c'est un raz-de-marée médiatique aussi bien en France qu'à l'étranger. Moi, je n'ai jamais vu dans les recherches que j'ai faites pour essayer de voir s'il y avait des cas similaires à celui de l'abbé Delarue, je n'ai jamais vu un cas d'un prêtre qui fuit avec une femme enceinte.
La mystérieuse disparition du curé de Châtenay. Un documentaire de Federico Polo Devoto et Somanina. Second épisode, une romance amère.
Il a trahi l'Église, il a trahi sa famille, qui n'était pas au courant, il a bafoué la justice, et l'abbé va décider, avec Marie Frémont, de s'expliquer à travers la presse en publiant leur mémoire.
Évidemment, l'entourage ecclésiastique des deux personnages est très hostile, puisque l'idée, leur espoir, c'était de faire disparaître très vite l'affaire, d'envoyer chacun à l'autre bout de la France, et puis d'en finir.
Caroline Muller, maître de conférence, spécialiste de l'histoire du fait religieux et du catholicisme.
Mais ces deux-là ont sans doute besoin d'argent d'abord, parce qu'ils attendent un enfant et il faut assurer leur avenir. D'autant qu'on se doute bien qu'ils se doutent bien qu'ils vont avoir du mal à réintégrer leur fonction initiale. Il faut voir aussi qu'ils n'avaient sans doute pas du tout imaginé que ça tournerait comme ça. Ils espéraient une disparition silencieuse. Donc là, ils cherchent des portes de sortie. C'est aussi un moyen de se faire un petit capital, ils vendent très très cher leur histoire, de façon à assurer l'avenir matériel du couple ou de l'enfant. Just your flock, just your
companions, just your kids. Le journal Le Matin leur octroie 5000 francs. C'est à peu près 2 ans de salaire, donc c'est une très belle
somme. Alain Denizet, historien, auteur du roman vrai du curé de Châtenay.
Ils ont fait cela pour une autre raison, c'est qu'on a tellement raconté de bêtises sur leur compte pendant 2 mois qu'ils veulent rétablir la vérité. Oui, nous sommes des gens qui nous aimons, non, je n'ai pas volé, non, je n'ai pas fait ceci, non, il n'y a pas eu d'histoire avec Madame Valot, etc. Rétablir la vérité aux yeux du public qui a suivi leurs aventures pendant 2 mois. Just your neck, just your couch. Ils ont fait quelque chose sans s'en rendre compte, à mon sens, qui est très moderne, c'est d'étaler sur la place publique, de faire part de leur expérience de vie. Alors c'est vraiment des mémoires qui sont incroyables pour plusieurs raisons. La première, c'est que Marie Frémont et Joseph Delarue ont dit au journaliste Georges de la Bruyère, qui est l'un des principaux journalistes du Matin, qu'ils allaient tout dire, tout. Et je vous assure qu'ils ont tout dit, y compris les moments les plus intimes. Ça a entraîné un tollé de la part du journal La Croix qui traîne l'abbé Delarue plus bas que terre. Donc tout dire de leur relation, et on apprend également par ses mémoires comment a été organisée la fuite de l'abbé Delarue et les retrouvailles avec Marie Frémont. C'est digne d'un roman policier, parfois d'un roman d'espionnage. Mais c'est un document qui est extrêmement intéressant, car je n'en connais pas d'autres qui fasse état avec autant de sincérité de la relation qui a démarré avec, entre Marie Frémont et l'abbé de la Rue. Ça démarre par un regard. La première fois où Marie Frémont l'explique, elle voit l'abbé de la Rue, elle a le coup de foudre. Et ça se termine par l'acte charnel qu'il raconte dans le presbytère où vivait l'abbé de la Rue. Entre le premier regard et puis l'accomplissement charnel, il y a 2 ans et demi.
And my perfume, and my beloved.
Leur mémoire se termine par une déclaration où ils affirment qu'ils ont la volonté de se marier très bientôt. Et très peu de temps après, on a un nouveau revirement, un énorme revirement. Ils se séparent. Pour expier, quelle est la cause de ce changement?
Ce sont tous les deux des catholiques extrêmement investis dans leur engagement. On ne devient pas curé, on ne devient pas prêtre par hasard, de même qu'on ne devient pas religieuse par hasard. Ce sont des vocations de long terme. Et il est à peu près certain que ce qui leur arrive ne le perçoivent pas du tout comme une rupture avec leur Église. Donc, il y a fort à parier que ce sont des gens qui vivent tout ceci sur un mode de culpabilité extrême, sans doute aggravé, accentué par leur lien avec leurs confesseurs et leurs directeurs de conscience, parce que les confesseurs et les directeurs de conscience mettent le doigt sur ce qui est péché, d'abord, mais aussi sur le fait que ça jette une opprobre considérable sur leur maison qui est, et leur famille, qui est l'Église catholique. Et donc, sur plusieurs mois, il faut imaginer que sans doute ces discussions ont fini par abîmer, éroder leur désir de mariage et ont dû finir par les convaincre que la meilleure solution était sans doute le retrait et la vie, une vie d'expiation. Et donc, je pense qu'il y a dû avoir des stratégies rhétoriques de la part des directeurs et confesseurs qui les entourent pour les pousser à la séparation d'eux-mêmes.
And my breasts, and my beloved.
Alain Denisé, pour comprendre cette séparation, il faut aussi peut-être comprendre le rôle qu'a pu jouer l'Église à travers le jésuite Pupé Gérard, qui était le directeur de conscience de l'abbé, comprendre le rôle qu'il a joué.
Alors Pupé Gérard joue un rôle très très important. Il sait, dès 1904, que l'abbé de la Rue peut avoir des élans amoureux. Bref, qu'il y a une femme qui s'intéresse à lui, que lui n'est pas insensible. Donc il confie son trouble à Pupé Gérard. Et puis, pour des raisons que j'ignore, en 1905, milieu de l'année 1905 ou début de l'année 1906, il ne voit plus l'abbé Pupé Gérard sur cette question-là. On sait qu'il voit Pupé Gérard, l'abbé de la Rue, le 24 juillet 1906, date où il part. Il le voit dans un état d'excitation vraiment intense. Il n'est pas dans son état normal, il le raconte dans les mémoires, et il a la tentation de tout dire à Pupé Gérard. Voilà, je suis là à Paris, c'est pas pour acheter des livres pour l'Écosse, c'est pour partir à Bruxelles. Et puis non, il se retient parce qu'il a promis à Marie Frémont. Voilà. Et ensuite, lors de cet épisode de novembre, nous arrivons en novembre, Pupé Gérard correspond avec l'abbé de la Rue, il le voit, et il entreprend pas à pas de reconquérir la brebis perdue. Donc il le voit, il lui écrit des lettres, il dit « Vous auriez dû vous confier à moi, Dieu est miséricordieux ». Enfin, il enrobe tout cela de belles paroles pour finalement que l'abbé de la Rue se sépare de Marie Frémont, qui est enceinte, sachant, Pupé Gérard pertinemment, qu'il y a de fortes chances pour que l'abbé de la Rue ne revoie jamais ni Marie Frémont, ni son enfant.
Quels ont été les arguments employés par le directeur de conscience Pupé Gérard pour convaincre l'abbé de la Rue et Marie Frémont de se séparer alors même qu'ils venaient d'annoncer qu'ils allaient se marier et qu'ils attendent un enfant?
Il y a l'argument de la faute. L'abbé de la Rue a fauté gravement. La concupiscence, c'est un péché mortel. Alors aujourd'hui, ça fait sourire peut-être les auditeurs qui nous écoutent, mais le péché mortel, c'est l'enfer. L'abbé de la Rue en parle dans des lettres. Après le scandale. Donc il a peur de l'enfer, il a peur d'avoir perdu l'appui de Dieu. Il joue également sur les engagements d'abbé de la Rue. Certes, il va peut-être ne pas voir son enfant, mais il va regagner, lorsqu'il redeviendra prêtre, il va regagner ses ouailles. Donc il va retrouver cette responsabilité-là pour lui et devant Dieu. Donc il va réparer en quelque sorte son erreur. Ajoutons une dernière chose, c'est que l'abbé de la Rue, je pense, en novembre, c'est un homme qui n'est pas sûr de lui. il a accepté de vivre avec Marie-Fremont parce qu'elle était enceinte, pas pour une autre raison. C'est un homme qui est exténué par 2 mois de fugue. Est-ce qu'aussi a pu jouer, je n'ai pas de preuves, mais les sentiments qu'il avait envers sa famille? S'il fait cesser le scandale avec Marie-Fremont, peut-être qu'il pourra se rabibocher avec sa famille, car les Delarue ne veulent plus entendre parler de celui qui a jeté l'opprobre sur le nom.
Mon grand-père a pris une décision courageuse.
Jean Delarue, diacre, petit-fils de Joseph Delarue.
Au moment où il découvre que Marie-Fremont est enceinte, il prend la décision d'aller plus loin et de quitter le ministère. Il y a beaucoup de prêtres à l'époque et aujourd'hui encore qui feraient une double vie ou cacheraient les choses. Or là, non. Il prend la décision de quitter le ministère. Or, il est profondément attaché à son ministère. Il ne quitte pas son ministère parce qu'il a plus la foi ou parce qu'il est vraiment croyant. C'est pour ça qu'il s'enfuit. Alors certainement, c'était trop compliqué à expliquer à ses parents, et puis il y avait cette naissance, c'était compliqué à gérer. À l'époque, on imagine bien que d'avoir un enfant hors mariage, c'est compliqué. Et encore, quand on est prêtre, encore plus. Et ce qui me choque, moi, le plus, c'est qu'il avait un directeur de conscience qui était son confesseur et qui aurait dû le conseiller, lui permettre de réfléchir, de discerner et respecter sa décision en conscience. Et ça, on voit bien que le directeur de conscience a outrepassé sa fonction et a eu un abus de conscience, un abus de pouvoir sur mon grand-père. On voit bien dans ses lettres à quel point sa décision est d'obtenir de la part de l'Église la possibilité de cesser d'être prêtre et de pouvoir avoir une dispense pour pouvoir se marier. Donc il n'a pas renoncé en réalité. Mais tout est fait par le directeur de conscience pour éloigner Marie et mon grand-père en ne disant pas la vérité, en cachant un certain nombre de lettres qui s'écrivaient. Et donc, elle n'a jamais su réellement les intentions de mon grand-père.
Ensuite, les choses sérieuses commencent. L'expiation, c'est à l'abbaye de Bonnecombe, des cisterciens, la discipline est très très dure. Et l'abbé Delarue, d'ailleurs, fait des efforts pour s'astreindre à tous les exercices de piété, aux messes, etc. Il essaie d'être un repenti modèle. Mais là, c'est extrêmement difficile. Et c'est là qu'il envoie des courriers à Marie-Fremont, qui sont encore autorisés, à Théodore Botrel. Il écrit aussi à Pupé Girard, qui lui donne des conseils. Par voie du courrier. Et puisqu'il est très indécis, finalement, puisque à la fois il suit le rythme de l'abbaye en voulant se repentir, et puis à la fois il demande une dispense, etc., eh bien, Pupé Girard, le directeur de conscience, coupe le courrier entre Marie-Fremont et l'abbé Delarue, car il souffre trop de ce courrier.
C'est-à-dire qu'au départ, les deux anciens amants pouvaient communiquer à travers Pupé Girard qui transmettait les courriers, à un moment, la communication cesse totalement.
Complètement. Vous avez raison de dire par l'intermédiaire de Pupé Girard, parce qu'il ne faut pas imaginer que l'abbé Delarue puisse écrire directement Marie-Fremont. Cela transite sous double enveloppe. Double enveloppe à Pupé Girard. Ils sont obsédés par le fait que des journalistes retrouvent la trace de l'abbé Delarue, raison pour laquelle il est enregistré à l'abbaye de Bonnecombe sous le nom de Jean Desprez. Donc effectivement, à partir de mars 1907, Joseph Delarue n'a plus aucune nouvelle de Marie-Fremont, et réciproquement, de Marie-Fremont, ni de sa petite-fille, Jeanne, que dans une des lettres qu'il avait reçues au début du mois de mars, il appelait « mon petit chérubin ».
À ce moment-là, sait-on encore quels sont les sentiments qui habitent les deux protagonistes?
Pour l'abbé Delarue, je crois qu'il est très très partagé. Il a des sentiments envers Marie-Fremont, mais il sait qu'il a des engagements de prêtre avec lesquels il veut renouer. Donc il est très très partagé. Il a des, des moments très difficiles. On dit qu'il a perdu 20 kilos, c'est le supérieur de l'abbé qui le dit, il a perdu 20 kilos, il a des tentatives, des idées suicidaires. Marie Frémont, elle, c'est plus clair. Hein. Elle a vraiment des sentiments pour l'abbé de la Rue. Elle aime l'abbé de la Rue, même si, à l'époque, on ne dit pas aimer. C'est le mot amitié, hein, qu'on retrouve dans beaucoup d'écrits. Hein. C'est pas particulier à eux. Donc, elle, oui, elle a des sentiments qui vont durer très, très longtemps pour l'abbé de la Rue.
Les commentaires des libres penseurs et des anticléricaux, sérieux, pas ceux qui donnent dans la gauloiserie ou dans la gaudriole, envisagent que cette affaire puisse servir, premièrement, à débloquer la question du mariage des prêtres.
Jacqueline Lalouette, historienne, spécialiste de la libre pensée et de l'anticléricalisme.
Parce que depuis des décennies, il y a un très fort questionnement autour du célibat des prêtres, de la chasteté des prêtres et des conséquences que cela peut avoir sur leur comportement et leur conduite en société. Et on rappelle là un certain nombre d'affaires criminelles, dont certaines très célèbres et assez anciennes, notamment l'affaire du curé Mingras sous la Restauration en 1822, l'affaire du frère Léotade en 1847 dans l'Aveyron. Avec l'abbé de la Rue, il n'y a rien de criminel, mais ça pose quand même la question des comportements des prêtres et de leur aptitude à accepter leur engagement en faveur du célibat et donc de la chasteté.
Jacqueline Lalouette, est-ce que c'est pas un moment où on bascule du fait divers au drame, en quelque sorte ?
Bah, moi, je vous dirais que le drame, il a commencé dès le départ. Hein. Parce que, avant même que Marie Frémont et l'abbé de la Rue concrétisent, en quelque sorte, leur histoire et leur amour, ça a commencé quand même par des mois d'interrogations spirituelles, apparemment surtout de la part de l'abbé de la Rue, qui a quand même tout fait pour résister à la tentation, qui a tout fait pour ne pas entendre les signes assez évidents que Marie Frémont lui donnait pour lui exprimer son amour. C'est déjà un drame en soi, cette affaire-là. Un drame humain, un drame sentimental, et en même temps, un drame psychique et un drame spirituel. Faut pas prendre ça à la rigolade. Et un drame peut-être, je dirais, d'autant plus aigu et d'autant plus poignant que l'abbé de la Rue ne perd pas la foi. Et donc, ça rend les choses d'autant plus difficiles pour lui. Mais rien n'empêchait, en réalité, qu'un prêtre se marie. Simplement, il n'a pas voulu demander sa réduction à l'état laïque. Il n'a pas voulu prendre ses clics et ses claques, comme disait l'action que je vous ai lue tout à l'heure. S'il avait été courageux, il aurait jeté son froc aux orties et se serait marié.
On sait que ce qu'il demande vraiment, c'est une dispense pour se marier. Et que finalement...
Mais comment il a pu imaginer ça ? C'est ça que je n'arrive pas à comprendre.
Marie Frémont épouse en 1909, au mois de mai 1909, et elle fait encore la une du journal Le Matin, hein, à l'église de la Madeleine à Paris. Elle épouse le fils du jardinier de Théodore Botrel. Elle l'épouse parce que elle a eu confirmation par le directeur de conscience Puppé Girard que l'abbé Delarue avait tourné la page. C'est ce que Pupé Gérard lui écrit dans une lettre, parce qu'elle demande des nouvelles, que devient mon ami, etc. Et Pupé Gérard lui dit, l'abbé Delarue, voilà, il est dans une abbaye maintenant en Espagne, il vous a oublié, il a tourné la page, etc. Sauf que nous savons par un autre courrier que le directeur de conscience, Pupé Gérard, a menti à la jeune femme. Il a menti, l'abbé Delarue n'a pas écrit cela du tout. Donc il a menti parce qu'il sentait bien qu'il y avait encore des velléités de retrouvailles de la part de Marie Frémont, de la part peut-être de Joseph Delarue. Il a voulu couper court et c'est ainsi qu'ils ne se sont jamais retrouvés. Donc c'est dire le poids très important du directeur de conscience qui n'est pas un simple confesseur mais qui s'occupe d'aspects globalisants en fait sur toute la personne du prêtre.
L'abbé Delarue a été envoyé en Espagne dans une autre abbaye où il est resté 4 ans.
Oui.
4 ans au terme desquels il a fui. On a perdu sa trace pendant quelques années. Il réapparaît au moment de la Première Guerre mondiale où il va s'engager en tant que volontaire dans l'armée. Où il sera décoré ?
Oui. L'abbaye Saint-Isidro, où il est en Espagne, il y reste 4 ans, on ne sait pas grand-chose de ce qu'il a vécu là-bas. Apparemment, ça s'est bien passé, apparemment seulement, puisque sous le registre qui donne les motifs de sortie de l'abbé Delarue, il est indiqué qu'il a fui par la fenêtre de l'hôtellerie. Donc c'est très étonnant. Et puis après, on sait qu'il a été en Angleterre, à Manchester, il a été aussi un peu en Belgique. Et puis effectivement, en 1914, il s'engage volontairement dans l'armée. Il a 44 ans, il n'est pas du tout obligé d'être dans l'armée. Il a plus de 35 ans, donc il aurait très bien pu rester en France ou en Espagne ou ailleurs. Et il s'y engage par patriotisme, il le dit. Et puis il s'y engage également parce que Dieu va faire son choix.
C'est à cette occasion-là qu'il reprend son nom. Pendant toute une période, il a vécu sous l'anonymat. On sent vraiment que c'est un nouveau départ, oui. C'est un nouveau départ non seulement parce qu'il il s'engage et il sert son pays, il va vivre comme brancardier, et après, après avoir été blessé, il va être traducteur de l'armée américaine. Et donc, il y a eu tout ce lien avec l'armée américaine. Et donc, si vous voulez, et en même temps, c'est la période où il semblerait qu'il rencontre ma grand-mère. Et voilà, c'est une autre étape. Autre étape où, effectivement, il a peut-être accepté, certainement avec difficulté, mais de renoncer à cet amour qu'il a connu.
Effectivement, alors il a rencontré avant-guerre, avant 1914, une jeune femme qui est plus jeune que lui de 20 ans et qu'il épouse en 1917. Il a attendu plusieurs années, il y avait la guerre et puis il y avait aussi le fait qu'il attendait une dispense de Rome pour pouvoir se marier avec cette femme. Donc l'abbé Delarue se marie avec une jeune femme, mais ce n'est pas évidemment Marie Frémont.
Alain Denizet, est-ce qu'on peut imaginer que si cette histoire avait eu lieu à un autre moment et non pas en 1906, est-ce que la fin aurait pu être différente ?
C'est probable, hein, parce que le contexte de l'année 1906, le contexte politique, le contexte religieux est très très important. Il explique à mon avis en grande partie l'ampleur énorme que cette affaire a prise. Lorsque l'abbé Delarue est découvert à Bruxelles, que dit la presse catholique, que disent les conservateurs et la presse nationaliste? C'est un complot. Les théories du complot n'ont rien inventé. Hein, c'est un complot. Comment imaginer qu'on fasse les obsèques d'un prêtre et que, comme par hasard, quelle coïncidence, le prêtre réapparaît en chair et en os à Bruxelles le même jour? Tout comme il y a d'autres coïncidences qui sont relevées lors de la semaine grand-guignolesque, où apparaissent la Hyène, les Magindos, etc. Les journaux comme La Croix, La Libre Parole de Drummond disent comme par hasard. C'est justement la semaine où le pape publiait l'encyclique Gravissimo qui condamnait la séparation des églises et de l'État. Donc, à chaque fois, cette affaire Delarue, elle a parasité le message de l'église. Voilà pourquoi on a crié au complot. Donc, si on était en 1907, 1908, 1909, je ne pense pas que cette affaire aurait fait autant de bruit.
Alors nous, on ne savait pas qu'il était abbé. On l'a découvert il y a 10 ans. On le connaissait comme notre grand-père. Voilà. Mais on n'en savait pas tellement plus. Hein. Il y avait une part de sa vie qui nous était pas accessible. Même si, je pense, le propre du secret de famille, ça se joue sur 3 générations et ça sointe. Inconsciemment, on le sait, et en même temps, ça nous amène à vivre des choses qui sont parfois étonnantes, quoi. Et quand j'avais 21 ans, j'ai souhaité être prêtre. Et je me suis posé la question. Et il y a eu quelque chose en moi qui a fait que j'ai ressenti profondément une force qui me dit « non, ne va pas vers ça ». Et en fin de compte, j'ai renoncé, mais aujourd'hui, j'ai la chance de vivre, puisque je suis diacre, mon ministère dans l'Église catholique en étant marié. Ça montre à quel point cette histoire, inconsciemment, elle était présente et elle nous a profondément marqués.
Est-ce que suite à la publication du livre d'Alain Denizé, vous avez eu des contacts avec d'autres branches de la famille, la famille de la rue, et avec la famille de Marie Frémont, les descendants? Est-ce que vous avez des...
Grâce au livre d'Alain Denizé, j'ai rencontré un petit cousin qui s'appelle Laurent de la Rue, et ça a été une très grande joie de pouvoir redécouvrir un membre de la famille. Alors, mon grand-père avait une sœur, Marie, et puis un frère, Émile. Et il faut savoir que dans la famille, cette histoire avait quand même eu des conséquences un peu difficiles. On a pu se redécouvrir et se vivre un vrai moment, un vrai bonheur de retrouvailles. Et on a eu la chance, parle aussi Alain Denizé, de rentrer en contact avec la famille de Marie Frémont. Alors, Marie Frémont a eu comme enfant Jeanne. Jeanne s'est mariée, mais n'a pas eu d'enfant. Donc, il n'y a pas de descendance directe. Mais en revanche, Jeanne avait effectivement un frère, un demi-frère, et il y a une descendance. Et ça a été une très grande joie de pouvoir se rencontrer. Alors, ce qui est étonnant, c'est que cette histoire, c'est vrai qu'à la fois, c'est dramatique ce qui s'est passé, mais on ne serait pas là s'il n'y avait pas eu cette fin-là. Et c'est ça qui est un peu compliqué, c'est qu'à la fois, notre présence, elle est liée au fait que il n'y a pas pu aller concrétiser son amour. Et donc, il a rencontré ma grand-mère, qui fait que nous sommes là aujourd'hui. Voilà, toute cette histoire est particulière.
C'était La mystérieuse disparition du curé de Châtenay. Second épisode, une romance amère. Avec Jean Delarue, Alain Denizé, Jacqueline Lalouette et Caroline Muller. Merci à Xavier Moreau et Laurie Villette. Prise de son, Fabien Capel, Christophe Goudin, Pierre Monteil et Noé Chaban. Mixage, Philippe Mercher. Coordination, Christine Bernard. Attaché de production, Sylvia Favre. Un documentaire de Federico Polo Devoto, réalisé par Somanina.
Le 12 juillet 1998, la France remporte pour la première fois la Coupe du Monde de football. Une brillante victoire 3-0 face au Brésil, champion du monde en titre. S'en suivra une incroyable liesse populaire au sein du pays, la nuit et les jours suivants.
Ils l'ont vécu, la victoire des Bleus en 1998.
Un podcast de Noureddine Zidane et Éric Lancien sur franceculture.fr et l'appli Radio France.